Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il y a en nous un combat. Sans aller jusqu'à parler de schizophrénie ou de dédoublement de la personnalité, il faut cependant admettre qu'il y a en nous un combat entre la chair et l'esprit. Car la chair convoite contre l'esprit, dit saint Paul dans l'Épître, et l'esprit contre la chair. En effet, ils sont opposés l'un à l'autre. La chair, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos premiers parents, Adam et Ève. C'est la nature blessée par le péché originel. Car la nature a été blessée par le péché originel. Le péché est directement contre la grâce. Le péché originel a fait perdre à Adam et à Ève la grâce. Mais quand un vêtement est fortement attaché au corps, si on l'arrache violemment, on blesse les membres. De même, le péché originel a laissé dans notre nature des blessures, et ces blessures demeurent même après que nous ayons récupéré la grâce par le baptême. Quand on parle de la chair comme opposée à l'esprit, on ne désigne pas seulement le corps. L'âme aussi a été blessée. On le voit par l'énumération de ce que saint Paul appelle des œuvres de la chair. Il parle par exemple d'inimitié, d'idolâtrie, qui sont des péchés de l'âme et non du corps. L'autre partie de nous-mêmes, ce que saint Paul appelle l'esprit, est l'héritage que nous recevons du nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes devenus enfants de Dieu, par qui nous avons reçu une nouvelle nature, une surnature. L'esprit, c'est donc notre personne en tant qu'elle est soumise à l'action du Saint-Esprit, à l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions parler ce matin des fruits du Saint-Esprit énumérés par saint Paul dans l'Épître, qui sont l'antidote de ce qu'il appelle les œuvres de la chair. Saint Paul énumère 12 fruits, au moins dans le texte latin de la Vulgate, dans les traductions, vous trouverez quelquefois quelques fruits qui manquent. Trois d'entre eux concernent nos rapports avec Dieu, la charité, la joie, la paix. Six autres concernent nos rapports avec le prochain, la patience, la longanimité, la douceur pour nous aider à supporter le mal que nous fait le prochain, la bonté, la bénignité, la fidélité pour nous aider à faire du bien au prochain. Enfin, trois de ces fruits nous aident à régler notre comportement personnel, la modestie, la continence, la chasteté. Voyons d'abord ce que sont les fruits du Saint-Esprit, puis cherchons un moyen de les acquérir facilement. Pour comprendre ce que sont les fruits du Saint-Esprit, voyons ce que nous en dit la Sainte Écriture, puis ajoutons quelques explications données par saint Thomas d'Aquin. Dans l'évangile de saint Matthieu, notre Seigneur dit « On reconnaît l'arbre à ses fruits », ce qui veut dire « On reconnaît l'homme à ses œuvres ». Les fruits sont donc des actes qui manifestent la bonté de celui qui les produit. Dans l'allégorie de la vigne, rapportée par saint Jean, il est question aussi de fruits. Tout sarment qui ne porte pas de fruits en moi, mon Père le retranchera, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émondera, afin qu'il porte plus de fruits. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits. En ceci, mon Père sera glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dieu veut donc que nous portions du fruit, et même beaucoup de fruits. Il le veut parce que cela lui procure de la gloire. Il le veut aussi parce que si nous n'en produisons pas, nous sommes inutiles et il nous retranchera et nous jettera en enfer. Ce n'est pas facultatif. Soit nous sommes unis à notre Seigneur et nous portons beaucoup de fruits, un fruit qui demeure pour l'éternité, soit nous sommes stériles et nous serons retranchés de la vigne et jetés dehors. Enfin, un dernier passage de l'Écriture nous donne une précision. C'est à la fin du livre de l'Apocalypse. L'ange me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, qui porte 12 fruits, donnant son fruit chaque mois. Le fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, c'est le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. C'est donc le Saint-Esprit qui nous fait produire ses fruits et qui est toujours prêt à nous aider à les produire, comme le signifie le fait que l'arbre donne son fruit toute l'année. Saint Thomas d'Aquin nous donne quelques précisions sur la nature des fruits du Saint-Esprit. Il remarque qu'on appelle fruit dans la nature ce qui est produit par une plante quand elle est parvenue à maturité et qui a en soi une certaine douceur. Les fruits du Saint-Esprit seront donc des actes des vertus, mais des vertus déjà parvenues à une certaine perfection et qui nous procurent une certaine satisfaction, une saveur. Notre âme possède naturellement des puissances qui nous permettent de faire le bien ou le mal. Lorsque nous produisons des actes bons, ou lorsque le bon Dieu infuse lui-même dans notre âme la grâce avec les vertus infuses, nos puissances sont alors perfectionnées par de bonnes habitudes qu'on appelle des vertus. Prenons un exemple. Au baptême, nous avons reçu, avec la grâce sanctifiante, la vertu de chasteté, qui nous aide à garder plus facilement la pureté. Quand cette vertu a atteint une certaine maturité, non seulement nous produisons les bons actes avec facilité, mais même avec un certain plaisir, une certaine joie. C'est pourquoi saint Paul nomme aussi la chasteté parmi les fruits du Saint-Esprit, c'est le 12e fruit énuméré. Enfin, quand la vertu a atteint toute sa perfection, ses actes ne font pas que nous donner de la joie, ils nous procurent un avant-goût du bonheur du ciel. On ne les appellera plus des fruits, mais des béatitudes. Ainsi, la chasteté correspondra à la 6e béatitude, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». La chasteté parfaite purifie non seulement notre cœur, mais aussi notre esprit, et le rend capable de connaître mieux Dieu, ce qui est un avant-goût du ciel. Ainsi, les fruits du Saint-Esprit sont des actes des vertus que nous produisons facilement et avec plaisir, et qui nous prépare à la béatitude. Ils nous sont donc très utiles. Comment les acquérir? Un moyen de les acquérir facilement, c'est la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort compare la dévotion à la Sainte Vierge à l'arbre de vie dont il est question dans l'Apocalypse. « Si le Saint-Esprit, dit-il, à planter dans votre âme le véritable arbre de vie, qui est la vraie dévotion à la Sainte Vierge, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il donne son fruit en son temps. Le grand moyen de produire les fruits du Saint-Esprit, c'est d'apporter tout notre soin à cultiver le véritable arbre de vie, qui est la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Par la Sainte Vierge, avec elle, en elle, nous produirons facilement ces 12 fruits. Cela n'est pas étonnant, car la Sainte Vierge a produit parfaitement tous les fruits du Saint-Esprit. Ils sont comme les fleurons de sa couronne, les 12 étoiles que Saint Jean a vues sur la tête de la femme dans le ciel. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. La Sainte Vierge non seulement a produit d'une manière exquise les fruits du Saint-Esprit, mais elle veut et elle peut les faire produire en nous. Voyons cela brièvement pour les trois groupes de fruits, ceux qui nous mettent en rapport avec Dieu, ceux qui nous mettent en rapport avec le prochain et ceux qui nous mettent en rapport avec nous-mêmes. Dans ses rapports avec Dieu, la Sainte Vierge a souvent pratiqué la charité, la joie, la paix. Mère de Dieu, elle a pratiqué la charité en aimant Jésus de tout son cœur immaculé. L'amour se transforme en joie lorsqu'il possède l'objet aimé. La Sainte Vierge a reçu Dieu dans son sein et elle a exprimé sa joie dans le Magnificat. Enfin, dans le cœur immaculé de Marie, tout rempli du Saint-Esprit, règne la paix, la tranquillité de l'ordre. Elle est la reine de la paix. Si nous avons une vraie dévotion à Notre-Dame, elle nous apprendra à aimer Jésus, son Fils, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, à vivre dans la joie, car elle est la cause de la joie. Causa nostre laetitia. Et elle nous donnera la vraie paix, la paix du cœur, paix qui nous viendra de la certitude de l'aimer et d'en être aimé. Dans ses rapports avec le prochain, la Sainte Vierge a eu comme nous, et plus que nous, à supporter des épreuves. Elle les a supportées avec patience, longanimité et douceur. Elle a supporté avec patience la terrible passion, traversant un océan de douleur sans broncher. Après l'ascension, elle a attendu avec longanimité pendant 15 ans de revoir Jésus. Enfin, elle est douce avec ses enfants, qui lui donnent pourtant bien des soucis. Ô Dulcis Virgo Maria. Demandons-lui qu'elle nous aide à accepter les épreuves que nous ménage la Providence divine dans nos rapports avec le prochain, à être patient, nous tournant vers le cœur immaculé de Marie pour y puiser cette patience, à savoir attendre avec longanimité l'heure de la Providence sans nous décourager, à être doux avec notre entourage, quelles que soient les circonstances. Doux cœur de Marie, soyez mon salut, et mette à répéter la petite Jacinthe. Dans les rapports avec le prochain, il faut aussi penser au bien que nous pouvons lui faire. La Sainte Vierge a su pratiquer la bonté, la bénignité, la fidélité, car elle voyait dans le prochain une image de son Fils. La bonté, c'est la qualité particulière d'une mère. Et Notre-Dame n'est-elle pas la bonne mère par excellence? La bénignité, c'est la bonté en action, qui réchauffe comme un bon feu, bonus ignis. Le cœur de Notre-Dame, rempli du feu du Saint-Esprit, réchauffe tous ceux qui l'approchent. La fidélité, c'est la qualité principale de l'amitié. Notre-Dame est la Vierge fidèle. Jamais il n'a été entendu dire, dit Saint Bernard, qu'elle ait été priée en vain. Demandons au cœur immaculé de Marie de nous aider dans nos rapports avec le prochain, à être bon, à avoir un bon cœur, à être bénin, à savoir dire un oui souriant à tous, voyant et traitant Jésus en tous, à être fidèle en amitié et surtout fidèle dans notre dévotion envers la Sainte Vierge. Enfin, les trois derniers fruits du Saint-Esprit sont des actes des vertus pour notre comportement personnel. La Sainte Vierge les a aussi produits. La modestie, par son attitude humble en toutes circonstances. La continence, par la pratique parfaite de la pauvreté chrétienne. La chasteté, en étant la Vierge des Vierges. Demandons-lui ces trois fruits, si opposés à l'esprit du monde. La modestie, pour ne pas nous laisser emporter par le désir de plaire, par la crainte du regard des autres si nous ne suivons pas la mode. La continence, par la pratique de la pauvreté chrétienne, car nul ne peut servir de maître, dit notre Seigneur dans l'Évangile. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Enfin, demandons à la Sainte Vierge la chasteté pour savoir traiter notre corps en serviteur sans nous laisser aller à une vie molle et à un confort indigne d'un serviteur de Notre-Dame. Plantons dans notre cœur l'arbre de vie, la vraie dévotion au cœur immaculé de Marie, qu'elle soit la reine de notre cœur et elle nous fera produire ses 12 fruits délicieux pour la joie de Dieu, en attendant que nous recevions le fruit de la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.